À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Je commence donc aujourd'hui toute une série d'émissions qui vont parler de la quête de santé, la quête de spiritualité, la guérison, le salut. Et j'aimerais au départ vous expliquer pourquoi je me suis de plus en plus intéressé à ces questions. Je suis arrivé au Zaïre, l'actuel Congo, en 1971. Et à ce moment-là, j'étais stagiaire chez les Pères Blancs, parce que actuellement je suis père blanc, missionnaire d'Afrique, et j'avais déjà commencé ma formation depuis 6 ans. Et arrivé en Afrique, j'avais été frappé de voir comment des églises qui étaient fondées par des prophètes africains, mais des églises chrétiennes, semblaient beaucoup mieux répondre aux attentes des gens. Et je me demandais, mais comment se fait-il que, quand des catholiques, parfois de plusieurs générations, ont des problèmes de santé, pensent à des questions de sorcellerie, sont inquiets par rapport à l'avenir, ils préfèrent aller ou bien vers ces églises qu'on appelle des églises afro-chrétiennes, ou bien chez des guérisseurs. Et j'ai très vite eu l'impression que, en fait, le langage que nous utilisions dans les hôpitaux, dans les églises, ce langage occidental, ne rejoignait pas la vision du monde des Africains, la vision de la santé, la vision d'épanouissement, les causes qu'il donnait à la maladie, à l'échec, à la souffrance. Et bien sûr, comme missionnaire, ce qui m'a choqué et qui me faisait de la peine, c'est que, dans le fond, ce qui est bonne nouvelle pour nous ne l'était pas au moment même où les gens étaient le plus fragiles. Alors cela m'a encouragé à commencer un travail de recherche en ethnologie et en théologie et à me former. En 73-76, j'étais à Strasbourg, où j'ai commencé des études de théologie, mais aussi d'ethnologie. Et ces années ont été importantes pour moi, parce que, à ces moments-là, j'ai commencé à découvrir le renouveau charismatique, qui commençait en France, mais aussi, parallèlement, l'orthodoxie, avec ce qu'on appelle la prière du cœur, ou la prière de Jésus. On aura l'occasion d'en reparler un jour. L'art de l'icône. Et aussi, j'ai été mis en contact avec les religions d'Extrême-Orient, le zen entre autres. Et dans les 3 cas, que ce soit l'orthodoxie, le renouveau ou les pratiques orientales, j'ai été frappé par le fait que le corps et l'affectivité étaient profondément associés à une démarche spirituelle. Il faut dire aussi que, comme missionnaire d'Afrique, père blanc, nous avons une formation ignatienne, c'est-à-dire de Saint Ignace de Loyola, qui lui-même a toujours été très attentif au mouvement de l'affectivité dans la vie spirituelle. Et une de ses forces, c'est pratiquement de donner un discernement, des clés de discernement. Comment est-ce que ce qui bouge dans mon cœur, dans mon affectivité, me dit quelque chose de la justesse de ma relation à Dieu, aux autres, à moi-même? Après ce temps de formation en théologie, en ethnologie, en spiritualité, je suis retourné au Zaïre. Et là, j'ai travaillé à la création des communautés de base, ces petites communautés chrétiennes de quartier qui, dans des paroisses surpeuplées ou bien dans des paroisses très étendues comme au Sahel, par exemple, les personnes se réunissent, se retrouvent pour prier, pour partager la Bible et pour s'entraider. Et je me disais que cette vie fraternelle de proximité allait peut-être être une réponse à l'attrait de ces mouvements d'églises nouvelles, un peu syncrétiques. Donc syncrétique, ça veut dire où on mélange différentes religions, ou bien des guérisseurs traditionnels au moment de l'épreuve. Et là encore, je me suis heurté à la même question. Dans ces petites communautés, on n'osait pas trop parler des questions de santé, d'un certain discours de l'Église sur le corps, sur la sexualité, sur les esprits, et que pour finir, les gens avaient l'impression que le corps n'était pas important pour le salut. En tout cas, ce n'était pas suffisamment pris en compte. Ils avaient aussi le réflexe alors, à ce moment-là, de faire comme on le chantait dans une chanson très répandue à Kinshasa à l'époque, le matin à la messe, le soir chez le devin. C'est-à-dire cette façon dont ils appartenaient à deux domaines, et c'est un évêque au synode des évêques d'Afrique de 1974 qui disait cela, nous sommes un petit peu comme des batraciens, c'est-à-dire quand le danger est dans l'eau, nous allons sur la terre, et quand le danger est sur la terre, nous allons dans l'eau. C'est-à-dire une double appartenance, le monde des esprits et puis le monde de la vie chrétienne. Ça peut nous dire quelque chose à nous aussi. Est-ce que, quelque part en nous-mêmes, nous ne sommes pas aussi un petit peu appartenant d'un côté à une démarche spirituelle chrétienne et d'un autre côté recherchant ailleurs des réponses lorsque nous ne sommes pas satisfaits, vivant parfois plusieurs appartenances? Ce sont peut-être des questions que nous pourrons nous reposer. Voilà donc après ce temps au Zaïr, après ce temps de recherche où j'ai pris conscience des limites de ce que l'on proposait dans les communautés de base, j'ai fait une thèse là-dessus, sur ces communautés, posant la question, est-ce que la dimension de santé, est-ce que la dimension d'épanouissement, est-ce que le corps et l'affectivité sont suffisamment pris en compte dans le christianisme? J'étais toujours en contexte africain. Après ma thèse, je suis allé en Tanzanie et là j'ai travaillé dans les villages, avec les gens. J'étais dans une région complètement isolée, région de montagne, où je ne pouvais pas aller en voiture, et donc j'ai marché pendant des journées, j'ai logé chez les gens, j'ai passé des soirées, j'ai passé des nuits à parler avec eux, et je sentais cette peur et cette crainte chez certains. Comment est-ce que le christianisme, comment est-ce que la foi en Jésus-Christ peut nous libérer des esprits, des ancêtres maléfiques, de la sorcellerie? Or, nous le verrons, ces questions, nous les retrouvons en Occident aussi. Et de plus en plus dans les diocèses, en tout cas en France, les exorcistes ont été réinstallés pour souvent recevoir des questions de ce type-là. Et puis effectivement, je suis revenu en France en 92. Et là, je travaillais à la formation des jeunes pères blancs, une communauté de 12 nationalités, 4 continents, une interculturalité permanente, mais aussi pour moi, la découverte de ce qu'on appelle le nouvel âge. C'est une expression un peu fourre-tout qui renvoie à une expérience culturelle très forte qui s'est passée aux États-Unis, en Californie, dans les années 60. À l'époque où il y a une réaction très forte contre la guerre du Vietnam, contre le consumérisme américain, la recherche de nouvelles spiritualités, l'intérêt pour le chamanisme mexicain ou pour les voyages à Katmandou, l'attirance pour la drogue, le psychédélisme. Vous avez entendu parler de tout ça. Mais ça a beaucoup changé depuis lors, et sous le mot « nouvel âge » actuellement, on met un petit peu n'importe quoi, aussi bien des expériences thérapeutiques intéressantes, qui méritent le respect, que des expériences complètement sectaires, ou bien des gourous autoproclamés qui font des dégâts. Nous y reviendrons sur ces questions, mais ce qui me frappait dans cette quête, c'est que je retrouvais dans le fond la même revendication que celle que j'entendais en Afrique. Le salut, qu'il soit salut chrétien ou un autre, n'est crédible que s'il nous rejoint dans notre corps, dans notre vie affective, dans notre vie relationnelle. Il y avait comme une conviction que l'on retrouve chez beaucoup de gens, même si ce n'est pas implicite. C'est que une spiritualité, ou un groupe religieux, ou une religion, s'ils ne sont pas capables de m'aider à m'épanouir aujourd'hui et à assumer le stress, la difficulté de trouver mon identité, un équilibre dans ma vie quotidienne, eh bien, ne peut pas me sauver demain. Ce qu'on demande aujourd'hui à la vie spirituelle, ce qu'on demande aussi aux églises, c'est pas seulement une bonne nouvelle pour une vie après la mort, mais c'est un moyen de se déployer dans toute sa personne aujourd'hui. J'ai découvert ça donc et je me suis rendu compte que nous étions donc confrontés en tant que chrétiens à cette question. Le christianisme est-il capable de rencontrer cette quête-là? Et donc, à partir de ce moment, j'ai creusé ces questions dans un enseignement que j'ai fait à la faculté de théologie de Toulouse, en travaillant aussi avec le renouveau charismatique, Et puis plus récemment, en travaillant avec des gens que l'on appelle, dans un certain jargon, dans l'Église de France, les recommençants à croire. Les recommençants à croire, ce sont des personnes qui, depuis plusieurs années, ont quitté l'Église, ont quitté le christianisme, ont pris leur distance. Peut-être parce qu'ils ont été blessés par l'Église, ou qu'ils ont vécu des épreuves qui les ont découragés, les ont coupés de Dieu, ou coupés d'une appartenance forte à leur foi, de leur enfance, et qui, pendant parfois de très nombreuses années, ont cherché des réponses dans le Nouvel Âge, dans le bouddhisme tibétain, dans des pratiques chamaniques, dans toutes sortes de recherches, à gauche et à droite, ou bien simplement en arrêtant tout. Et voilà que, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, recommençant à croire, ces personnes reviennent vers l'Église, vers le christianisme, en se posant des questions. Parce qu'un certain nombre d'entre elles ont fait un travail sur le corps, sur l'affectivité. Ils ont appris à méditer dans des religions traditionnelles, orientales ou autres. Ils ont appris à se découvrir. Beaucoup ont fait un travail sur elles-mêmes. Et donc, elles reviennent en se posant cette question. Est-ce qu'en revenant au christianisme, en redevenant chrétien, je serai respecté dans tout ce chemin que j'ai fait sur le corps, que j'ai fait sur moi-même? Et ça, c'est un défi pour l'Église, et c'est un défi pour moi-même. Comment accueillir une quête qui se veut singulière, unique, où la personne voudrait être accueillie dans toutes ses dimensions? Et donc, tout cela m'a amené à me poser la question, dans quelle mesure le christianisme, aujourd'hui, est-il assez fidèle à l'incarnation? Est-ce qu'il tient compte du fait que l'être humain est à la fois un être de chair, un être d'affectivité, de sexualité, autant qu'un être spirituel? Est-ce que, dans l'Église, nous sommes capables d'entendre une quête de salut qui touche aussi à la santé et au bien-être, tout en rappelant qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fécondité sans passer à certains moments par la souffrance? On ne peut pas faire l'impasse sur la croix. Alors, comment faire pour accueillir ces demandes, reconnaître qu'effectivement la foi chrétienne est un lieu d'épanouissement et de déploiement de toute la personne, et en même temps ne pas gommer cette réalité qui est celle de la croix du Christ, qui est celle qui nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de croissance sans passer par des deuils, sans accepter nos limites humaines qui font que nous sommes des êtres qui souffrent, qui peuvent tomber malades, qui vieillissent. Ce sont ces questions que je voudrais creuser avec vous. Alors je viens de vous dire l'importance des découvertes que j'ai faites en Afrique par rapport à la santé. Mais en fait, ce n'est pas simplement un problème lié à l'Afrique, mais je voudrais vous donner un exemple d'abord partant de l'Afrique. Je me trouvais un jour sur une piste dans une région désertique au Mali et nous nous étions abrités sous un baobab à l'ombre pour nous reposer un peu alors qu'un soleil de plomb immobilisait toute vie à l'heure de midi. Nous n'étions pas loin du fleuve Niger. Et voilà qu'au moment de repartir, mon ami Bambara, avec qui je voyageais, se fait héler par un de ses amis. Il se serre la main longuement, et puis commence la longue litanie des salutations. Comment va ta famille? Comment vont les vieux? Comment vont les chèvres? Est-ce que vous avez eu de l'eau? Est-ce que les cultures sont bonnes? Comment va l'hivernage? Et le mil, est-ce qu'il pousse? Et voilà que toute la vie de la parenté et du village se déroulait dans ce questionnement primordial qui dans le fond était « Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es en bonne santé, toi et les tiens? » Et si c'est le cas, Dieu merci. Sinon, eh bien faisons quand même confiance à Dieu. Ce récit, qui peut paraître un peu exotique, ne nous parle pas que de l'Afrique. Je rentre d'un long voyage en Inde. Et qu'est-ce que je voyais dans les boutiques, sur les camions, dans les rues? Je voyais par exemple l'effigie du dieu Ganesh, qui est le dieu à tête d'éléphant, qui est celui qui est favorable à la fois au commerce et aux artistes. Et il est orné d'un collier de fleurs qu'on lui renouvelle régulièrement. Et puis le soir, quand nous passions en bus, la nuit, à travers les villages, nous voyons des petites lumières comme des lucioles. Il s'agissait de la célébration du soir où on apportait la lumière auprès des divinités. On offrait des bananes, des fleurs, des noix de coco et aussi la prière pour la bénédiction sur les champs, sur les cultures. À ce dieu du cosmos, à ces dieux du cosmos, parce qu'il y a des milliers de dieux en Inde et chacun peut avoir le sien. Alors peut-être que vous me direz, mais bien sûr, ça ce sont des régions très religieuses. Alors bien sûr, tout ce qui est du domaine du salut, des salutations, c'est très important. Mais est-ce que ça a vraiment disparu en Occident, dans la vie moderne? Bien sûr, beaucoup de gens se disent indifférents ou incroyants. C'est vrai qu'il y a un grand individualisme qui nous envahit. Et le danger, c'est de vivre chacun pour soi. Et le danger, c'est de croire qu'en fait, ma vie dépend moins de mes relations, de mes liens, que de mon compte en banque. C'est là-dessus que je compte assurer mon avenir. Et pourtant, vous qui m'écoutez, ce matin, n'avez-vous salué personne? Quand vous vous êtes levé? Quand vous avez rencontré d'autres personnes? Ce matin, quand vous êtes sorti de chez vous? Quand vous avez croisé quelqu'un dans la rue? Quand vous êtes arrivé au bureau? N'y a-t-il pas eu des salutations? Mais le mot salutation, il vient du mot salus en grec, en latin, pardon, qui veut dire à la fois salut et santé, comme pour l'espagnol salud. Oui, nous continuons à nous enquérir le matin. Ça va? Tu vas bien? Et puis, s'il y a des mamans qui m'entendent, elles savent bien que quand on s'adresse à une maman pour lui demander comment vas-tu, ce dont elle va nous parler, c'est de la santé de ses enfants. Vivre pleinement, être en bonne santé, ce sont souvent des synonymes pour beaucoup d'entre nous. Le souci de notre santé, de notre confort, de notre bien-être, qui ne l'a pas? Regardons le budget que consacre l'État, mais regardons aussi notre propre budget familial et ce qui se passe lorsque l'un d'entre nous ne va pas bien. Et il est très probable que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont couchés, bloqués par une maladie, un handicap, ou des gens qui vieillissent, parfois difficilement. Il y a peut-être aussi des professionnels qui savent que dans leur métier, il est interdit d'être malade. L'obligation d'excellence, le zéro défaut, toujours en forme. Il faut que ça marche. Il faut rentabiliser. Et les publicités ne nous parlent que de cela. Nous voyons bien que, lorsque nous regardons la télévision, régulièrement on nous présente des visages de gens heureux, jeunes, beaux, en bonne santé, qui ont réussi. L'excellence, la santé, le bonheur. Bien plus, et certains d'entre nous l'ont expérimenté, si vous tombez malade, on va presque vous le reprocher. Qu'est-ce que tu as fait pour tomber malade? Et combien se culpabilisent de leur cancer, de leur dépression nerveuse? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle erreur est-ce que j'ai faite? Pourquoi est-ce que c'est à moi que c'est arrivé? Et on cherche à expliquer, on se justifie, parfois autant qu'on se soigne. Et puis il y en a même qui se sentent abandonnés par Dieu. Et il y en a certainement parmi nous qui à certains moments ont eu cette idée qui leur ont traversé l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ce soit à moi que ça arrive? Cet accident, cette maladie, la perte de cet enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou que je n'ai pas fait? Que d'angoisse, de soucis, d'investissements financiers à propos de notre santé. Mais quand on dit santé aujourd'hui, ce n'est plus dans le sens que l'on pouvait donner dans le temps, cette définition de la santé qui était le silence des organes. Aujourd'hui, il ne suffit pas de ne pas être malade pour dire qu'on est en bonne santé. On veut être en forme, on veut être bien dans sa tête, on cherche à avoir de bonnes relations, on cherche à s'épanouir. Et il faut reconnaître que ce n'est pas seulement en Afrique que la relation est tellement importante pour un équilibre de santé, mais aussi en Occident. Pour vous qui m'entendez, certainement que quand vous entendez parler de « être en bonne santé », vous pensez à beaucoup de choses qui débordent cette question de survie qu'on peut avoir dans les sociétés primitives. Vous savez, j'ai vécu dans des régions au bord du lac Kivu, où quand je demandais à un enfant « comment vas-tu ?», il me répondait « j'ai faim ». Et dans certains milieux, être en bonne santé, eh bien, c'est simplement avoir la chance de manger une fois tous les deux jours. C'est la survie de la famille, c'est la survie du clan, c'est avoir de la pluie. Et cette année, la pluie est très en retard dans le Sahel. Mais pour d'autres, il s'agit du bonheur. Et pour certains, surtout pour nous occidentaux, il est impossible d'être heureux sans être en bonne santé. Pour certains, la maladie est un scandale. C'est quelque chose qui ne devrait plus arriver aujourd'hui. Ce sont des questions que nous allons reprendre et que nous allons creuser. Pour certains, s'il n'y a pas de guérison, c'est que la médecine ne s'est pas montrée à la hauteur. Pour d'autres, si le résultat d'un traitement n'est pas immédiat, eh bien on va aller d'expérience en expérience. Il faut guérir à tout prix parce qu'il faut fermer la parenthèse le plus vite possible. Guérir, ne pas avoir mal, ne pas être diminué. Oui, mais guérir comment ? Guérir de quoi ? Pour vous qui êtes là, engagés dans votre travail ou qui écoutez peut-être en faisant la cuisine ou en conduisant la voiture, vous êtes aussi interrogés par ces questions. Faire de la santé la condition du bonheur, est-ce que ce n'est pas nous condamner nous-mêmes au malheur ? Parce que tôt ou tard, nous allons vieillir. Nous faisons l'expérience des limites de nos capacités, de nos forces, de notre mémoire. Les plus âgés parmi nous, ils savent bien qu'il y a des moments où des choses qui étaient toutes simples deviennent très compliquées, comme simplement faire son lacet ou bien faire ses comptes. Mais il y a aussi l'accident imprévisible ou bien il y a le virus inattendu. Et Dieu sait si nous sommes choqués par ce qui se passe à propos du sida et de sa progression un peu partout dans le monde. Ou bien simplement vivre avec un terrain familial fragile. Alors dire que la santé est la condition du bonheur, est-ce que ce n'est pas nous condamner à la toute-puissance ? Est-ce que ce n'est pas condamner le médecin à la toute-puissance ? Est-ce que ce n'est pas condamner Dieu à la toute-puissance ? Une providence qui se mêlerait de tout. Alors voilà, aujourd'hui je suis malade et l'univers entier est convoqué autour de mon lit. Guérir. Cela dépend de qui. Soigner. Comment être responsable de sa santé ? Cela implique quoi ? Et jusqu'à quel point est-ce que cela dépend de moi ? Parce qu'on nous dit beaucoup « soignez votre capital santé », mais est-ce que ça dépend seulement de moi ? Et alors, quand on est chrétien, il y a encore autre chose. C'est d'un côté, on a pu entendre « eh bien, c'est bon de souffrir. D'ailleurs, plus tu souffres ici, plus tu seras heureux de l'autre côté. » D'ailleurs, tu vois bien, le Christ a beaucoup souffert. La vie, c'est une vallée de larmes. Et de l'autre, qu'est-ce que nous voyons ? Le Christ qui guérit, qui exorcise, qui s'exclame « Venez à moi, vous dont le fardeau est trop lourd, vous trouverez le repos. » Alors comment certaines personnes peuvent-elles dire ? C'est Dieu qui nous envoie les croix. C'est pour nous faire avancer, c'est pour nous purifier. Alors que nous sommes incapables de savoir à l'avance si la croix va me faire grandir ou si elle va m'écraser et me faire blasphémer. Que de personnes ont été scandalisées et choquées par un Père tout-puissant qui semblerait se satisfaire de la souffrance de ses enfants. Là aussi, c'est une question grave. Ça fait beaucoup de mal. Et nous allons y revenir. Est-ce que c'est bien ça que Jésus a dit ? Jésus a guéri. Sans doute guérit-il encore. Mais il a souffert, il est mort assassiné. Il n'a pas fui la souffrance, mais il ne l'a pas glorifiée. Il ne l'a pas sacralisée. Dès les débuts, l'Église a fondé des hôpitaux. Nous savons que pour reconnaître un saint pour la canonisation, on demande des guérisons. Nous savons qu'il y a toutes sortes de saints connus pour leurs vertus thérapeutiques et les pèlerinages. Et puis peut-être que vous connaissez cette parole de saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors voilà, pouvons-nous être sauvés sans être guéris? Pouvons-nous être guéris sans être sauvés? Peut-être que pour certains, être sauvé, c'est accepter leur guérison dans la confiance. Qu'est-ce que notre foi chrétienne va nous dire de tout cela pour que nous arrivions à vivre avec notre fragilité? Cela aussi, il faudra que nous réfléchissions ensemble là-dessus. À bientôt!
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.